Hello people, bonjour, 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 ça va? Salut tout le monde? Vous parlez anglais ou pas? C'est la merde, non? Ça va? Parce que Ever ici qui nous vient de Vienne, mais américaine, parle anglais, donc on fera ce qu'on peut pour traduire en fonction. Si vous avez des problèmes, vous levez la main et vous dites on n'a rien compris. De toute façon,
Voilà.
vous ne comprendrez rien.
En fait, on n'a pas de. On pensait avoir de la traduction simultanée, ce qu'on n'a pas. Donc, est-ce que. C'est la vraie question à poser au début. En fait, est-ce que vous voulez que, à chaque fois qu'Heather parle, on prenne le temps de traduire en français ce qu'elle vous dit? Ou est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'écouter ce qu'elle dit en anglais? À l'aise, levez la main!
Ok.
Plein de gens à l'aise, c'est mortel. Ok, si à un moment vous sentez perdu ou quoi que ce soit, vous faites des signes et David ou moi, on traduira ce qui se passe avec Heather.
Et moi, je suis très raisonnée.
Donc, bienvenue, merci d'être avec nous. Donc, moi, je suis Fleur Marty, je vais faire ce que je peux pour modérer cette conf. À ma droite, non, on va commencer par les dames. À ma gauche, Heather Kelly, qui est donc game designer, qui travaille dans le milieu du jeu vidéo depuis une quinzaine d'années, qui a travaillé sur des gros titres du triple A, comme Splinter Cell par exemple, mais aussi des choses plus confidentielles, des jeux mobiles, des jeux web, des jeux sociaux, des jeux du serious gaming, donc des jeux qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut changer le comportement des gens dans la vraie vie. Et qui, au fil des années, s'est un petit peu distancié de cette industrie mainstream. Et qui a commencé à se poser la question de qu'est-ce que c'est vraiment être un game designer et qu'est-ce que c'est qu'être un game designer différent. Elle a été curatrice de pas mal d'expositions et notamment très récemment à Paris, une exposition qui a eu lieu à la Gaîté Lyrique et qui a en fait transformé un immeuble tout entier en un jeu vidéo vivant. Au sein duquel on pouvait, enfin, un immeuble au sein duquel on pouvait jouer et avec lequel on pouvait interagir. À ma droite, David Calvo, qu'on connaît beaucoup plus en France en tant qu'auteur. Il est notamment cette année nominé au prix européen des Utopiales pour son dernier roman, Elliot du Néant. Mais il est aussi dessinateur et game designer, et pour lui, le game design, c'est justement un moyen de créer du lien entre l'écriture et le dessin. Et il réfléchit aussi beaucoup aux façons de faire du game design de façon différente de ce que l'industrie mainstream nous propose aujourd'hui, et comment est-ce que les jeux vidéo et le game design peuvent changer la réalité des gens. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler de game design et de science-fiction et en quoi le jeu vidéo peut apporter quelque chose de différent ou de complémentaire aux univers de science-fiction par rapport à la littérature, le cinéma, le dessin, etc. Je pense qu'on pourrait commencer par définir qu'est-ce que c'est que le game design, qu'est-ce que c'est qu'être un game designer, à la fois dans le terme le plus large, qu'est-ce que les gens pensent aujourd'hui, qu'est un game designer, qu'est-ce qu'il est censé faire, et comment et David et Heather essayent d'élargir ça et de trouver des façons différentes de faire du game design. Maybe David, you could. No, Heather, you could start by telling us. What is a game designer? What does a game designer do in the general sense of it? And how you're trying to make game design a different thing than the usual mainstream thing?
Okay. So game design in general, what a game designer would do professionally is does figure out what the interaction is that the player is going to perform when they are playing the game. And I'll get very basic, but I'll try to not belabor it. But it's not necessarily the graphics and not necessarily the programming, but it's a little bit like directing or leading what the player will, the actions that they will take. And a lot of that is, of course, designing rules and behaviors and systems that make the game, the pieces, the different pieces of the game interact as one whole. So in essence, thinking about what it could be, it means you're designing reality for the player, and that is a pretty big responsibility, since just, you know, replicating what already exists is one possibility, but if you're designing these rule sets, you could be completely creating an entirely new reality. And we see that, of course, in the stories and the worlds in games, but I think we have a, what we really want to talk about today is that the responsibility is even larger than that, and that there's a lot to learn from what has gone before in other media and other genres like science fiction.
David?
Okay. Alors,
do you need to translate me, or did we decide that it was okay?
Oui.
It's all right.
Ça a l'air pas mal.
I mean, don't be shy.
Okay, cool.
I understand, obviously.
C'est interactif. Vous avez le droit de nous dire des trucs, vous lever, vous dire ah non mais attends. Ok, donc le game design, moi, c'est quelque chose que j'ai compris il y a très peu de temps en fait, parce que moi j'ai une façon de faire les choses qui est de l'intérieur et voilà. Et je me suis rendu compte à un moment donné que la manière d'organiser des choses dans une réalité donnée épouser les contours d'une théorie du game design qui était à l'œuvre depuis, on va dire, 5-6 ans chez les intellectuels du game design. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de travailler ça et essayer de comprendre ce qui se passe finalement quand on travaille avec, à l'intérieur des systèmes. Donc, si vous voulez que je vous donne une coupe de ce que pourrait faire un game designer, ce serait d'inventer un système, d'observer le système. Imaginez que je vous donne un système avec ce cahier, cette bouteille et ces verres. Quels sont le maxi... C'est notre réalité, c'est notre monde. Il n'y a pas d'autre monde que ça. Ça n'a aucune importance. Dans un jeu vidéo, l'arbre qui tombe dans la forêt, et s'il n'y a personne pour l'entendre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'arbre. Voilà, on s'en fout en fait. Donc notre réalité, c'est ça. Donc comment faire quelque chose qui ait du sens à partir de ces trois éléments-là ? Donc c'est la mise en place d'un système, que ce soit un système algorithmique à partir d'une équation, à partir de chiffres, que ce soit un système théorique, narratif, une culture contre une autre, un monde contre un autre, ou quoi que ce soit, et d'envisager un maximum, on va dire, de fragmentation de cet univers, et d'envisager toutes les relations que tous les éléments vont avoir les uns avec les autres. Alors, je sais que ça peut paraître un peu abscon comme ça, mais en fait, c'est très simple. C'est-à-dire de dire, quel est le sens que ces trois éléments vont avoir les uns avec les autres dans un temps donné qui est le temps de l'expérience du jeu. Voilà. Et ça c'est étonnant quand on commence à réfléchir là-dessus, quand on écrit des romans, quand on écrit des nouvelles, quand on fait des jeux, c'est de dire que finalement la réalité n'est pas tant celle qui précède la création, mais qui est celle que la création induit. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout de savoir si la création elle a un rapport avec la réalité. L'important c'est que cette création dise la réalité. Et c'est ça le dit la réalité. Je suis pas très bon en orthographe. Donc, en fait, c'est ça, c'est cette frontière-là qu'il faut passer. C'est de dire que le game designer, c'est celui qui va créer une réalité dans laquelle un point infini d'éléments vont interagir les uns avec les autres pour créer un sens. Voilà. Et ça, pour moi, en tant qu'auteur, ça a été une révélation. C'était de dire, oh, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, je suis plus obligé d'être dans la réalité, quoi. C'est vrai. Ça veut dire qu'on peut vraiment prendre cette table comme étant le réel, en fait, quoi. Et ça, c'est génial. Voilà. Et donc, moi, c'est comme ça que je suis rentré dans le game design. Quoi. Je me dis, finalement, on fait ce qu'on veut. On est nos propres architectes. Quoi. Et le game design, c'est ça. C'est l'architecture d'un réel. Pas du réel, d'un réel. Voilà.
She's translating. She's translating that you said, fuck reality.
Yeah. Yeah, yeah. Basically.
But what we want to do is create a new reality when we do game design. We don't say fuck reality, we say fuck the real reality, but we create our own. And that is what science fiction is about, creating a new reality or thinking a new reality.
Okay, can I... Do you want to say something?
No.
Okay, there is a concept that is very interesting dans la science-fiction anglo-saxonne que nous, on a très peu en France, enfin, du moins qu'on traduit très peu, qui est le concept de vérisimilitude, de, on va dire, de vraisemblabilité. D'accord ? C'est-à-dire que potentiellement, à partir du moment où vous avez une idée de comment votre système il est fonctionnel à l'intérieur de lui, comment il se justifie lui-même, vous n'avez pas besoin de le justifier par rapport à la réalité. Et ça, c'est super important ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que l'important, c'est que ça ait l'air vrai. C'est pas que ce soit vrai. Parce que finalement, la vérité, on s'en fout. La vérité, c'est une espèce de but philosophique comme ça, inatteignable, pragmatique, tout ce que vous voulez, mais dans la création, ça n'a aucune importance. La vérité, elle vient... c'est un élan, c'est pas un sacerdoce. Voilà. Donc, oui, nous créons une nouvelle réalité, mais est-ce qu'elle est moins vraie que la réalité que nous créons tous ensemble de manière sensuelle, perceptuelle? Moi, je sais pas, j'ai pas les outils pour le dire. Je sais pas, je suis pas philosophe, je suis pas scientifique, j'en sais rien. Mais par contre, je sais que quelqu'un qui va rentrer dans un monde virtuel et qui va prendre le monde virtuel comme un argent comptant, on va pas le faire à l'aune de la réalité. Il va pas se dire que Facebook c'est plus réel que le réel. C'est Facebook. C'est un royaume en tant que tel. Et dans ce royaume, toutes les règles justifient l'existence de ce royaume. Voilà. Et ça, c'est super important parce que ça, c'est la science-fiction. Enfin, la science-fiction, c'est l'imaginaire. Alors là, on a un problème. Excusez-moi. On a un problème de sémantique. On va pas parler de science-fiction et de fantasy parce que ça, c'est des murs quoi, qu'on se met pour dire que finalement, on met des catégories sur la manière dont on réinvente le monde. On va le réinventer à partir d'une base scientifique, on va le réinventer à partir d'une base féerique, on va le réinventer à partir d'une base émotionnelle, mais la base, c'est de le réinventer. On va parler d'imaginaire, même si imaginaire, c'est un gros mot. Mais l'imaginaire, c'est le produit de la réinvention. Voilà. Que les choses soient claires. Parce que j'aime que les choses soient claires.
What?
No.
That's my job here. What?
No. The fact, what we are dealing with, ce que nous gérons ici, c'est une idée du réel. La science-fiction est-elle une idée du réel idéalisée ou est-elle le réel tel que nous le ressentons? Et pour moi, c'est là la différence entre le game design et la science-fiction. C'est que le game design s'intéresse à ce qui est et pas à ce qui pourrait être. Et c'est ça qui nous amène là, en fait. So,
what you think good game design is should be interested in what's really real and what we can make with it.
Is there such a thing as good game design and bad game design?
I believe so, yes.
Tell us.
Oh, boy. Well, maybe consistency is a certain quality of a good game design, or expressiveness, I would say also. Like, maybe that the game design that allows you to experience something, and we talked about the danger of this word earlier, and I was interested to hear that, of course, meaning in French is very different, but immersion, but something that allows you to not only take part secondhand in another person's experience, but allows you to emotionally engage in something that you are doing, but through this other avatar / character or entity in this other reality, and try it on for size, essentially. If it's very good at doing that, then to me that's a good game. Like the experiential level, even if it's something that we don't think of as the traditional goals of game design that people think of as like, oh, I felt so powerful in that. Like that doesn't necessarily have to be what a good game is. It's just something that makes me feel like I've been through an alternate experience that I could not have had in any other way than this entering in this other world and having these abilities and things I can do in that world and affecting that world and seeing it change and having an influence over it, but not necessarily the same heroic narrative. Those are also good, but that doesn't only define a good game for me as something that you can win. It doesn't have to. A good game does not require you to be able to win the game, I guess. So I don't know. It's really like the field of games is very broad for me. It does not mean only one thing or one style of experience. And so it's really hard to pin down what that would be. And as a designer, I'm usually looking at the situation or the circumstance that the game needs to exist in, like the platform that it's on or the people that I want to play it and what I want them to feel and whether they are able to feel that and then I feel that for me, that's how I would gauge my own success is there's some prerequisites and then also maybe a message I want to communicate or sensory experience that I want people to feel and to me if it achieves that through observation then it's a good game. So yeah. That would be my non-example.
Heather, as a game designer, wants to make people live meaningful experiences.
Yes.
Okay.
Let's say that.
Is it your goal, David, as a game designer?
Well, since I've known Heather, yes. Okay, je vais repasser en français. Elle a dit un mot très important qui est la consistance, consistency en anglais. Donc ça veut dire la légitimité d'une expérience. Qu'importe si cette expérience n'est pas fidèle à la réalité, l'important c'est que la manière dont on la traverse ait un sens. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est le graal du game design en fait. C'est-à-dire le moment où on va se dire que finalement les choses qu'on fait dans un contexte donné ont un sens pour nous, quel que soit ce sens. Le but c'est pas d'avoir pas d'émettre un jugement sur des gens qui tuent. L'important c'est de savoir si le processus d'expérience amène quelque chose. Donc oui, en ce sens-là, bien sûr que je pense que l'expérience et la traversée de l'expérience est fondamentale. Mais il y a un truc que j'aimerais rajouter, c'est qu'à mon avis, il y a un truc qui manque fondamentalement. C'est que quand on est auteur, et je vous parle de ça parce que j'écris des livres aussi, donc je ne me permettrai pas de vous parler de ça si je n'avais pas les deux rapports en fait. C'est que quand on écrit un livre, même si on écrit jeu, machin, on a tendance à passer à travers quelqu'un pour ressentir les choses. D'accord ? Dans un jeu, ce n'est pas pareil. Dans un jeu, quand on meurt, on meurt. Même si notre personnage y meurt, on crève nous, parce que le personnage il n'a pas d'existence vraiment, à partir du moment où il a une existence narrative, par exemple dans un GTA où le mec il a vraiment une expérience, une traversée, des choses comme ça, où vraiment on engage notre sens narratif, mais on est plus proche du roman. Mais par exemple on joue à Mario, il n'a pas l'histoire, il n'a rien, d'accord ? On crève, c'est nous qui crèvons, c'est pas Mario qui crève, c'est nous, on est mort. Voilà. Et donc c'est cette confrontation à l'émotion directe en fait, qui fait que l'expérience est plus forte. Alors, je dirais pas nécessairement plus importante, plus significative, mais en tout cas émotionnellement plus forte. Et c'est quelque chose que qui m'a beaucoup travaillé en tant qu'auteur, parce que je me suis dit finalement pourquoi écrire des livres, quoi. Je veux dire, on peut créer des personnages comme ça virtuels qui ont aucun rapport. On fait des cubes et on balance des cubes et puis le cube meurt, on pleure. Ça arrive à tout le monde. Mais en même temps, est-ce qu'on peut pas faire de cette expérience du cube qui crève quelque chose de plus fort en créant des contextes avec des sens plus forts ? Alors, c'est là où je rejoins Heather en fait. C'est-à-dire de dire que oui, l'expérience est importante, mais pas simplement l'expérience du personnage, pas simplement le transfert. Ce qui est important, c'est la place, notre place dans un contexte. Et on voit ça beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les jeux online en ce moment. Alors, je sais pas, je pense que si vous êtes là, vous vous intéressez aux jeux online, mais je veux dire que vous preniez WoW, que vous preniez Star Wars All Empire, Roll Red Republic, ou que vous preniez Guild Wars, finalement, c'est les mêmes univers. À aucun moment, on essaye de vous dire, non, l'univers que vous traversez, il a un impact sur ce que vous faites. Jamais. Jamais. Même Guild Wars, qui est du pur PVP, tout le monde s'en fout, quoi. C'est un jeu de fantasy de base. Niveau zéro de l'imagination, quoi. Donc moi c'est ça que je voudrais ramener en fait là-dedans, c'est la notion de contextualisation d'expérience. Oui, l'expérience est importante, mais la contextualisation de l'expérience est encore plus importante, je pense. Enfin, mais ça c'est juste mon avis. Hein. Contextualization. Okay, we are entering a blank here. What's going on? Okay, so let. Okay, je reprends. Je suis désolé, je suis un peu facho. Je me sens mal. Okay. Okay. Do that. Do that. Do that. It's very good. Le truc, c'est que c'est extrêmement bizarre ce qu'on fait là ce soir. C'est-à-dire qu'on essaye d'amener deux mondes qui normalement ne communiquent pas. Okay. Donc on essaye de faire communiquer des mondes et ce n'est pas évident.
Ok, so, what we wanted really to, one of the topics we wanted to bring was that mainstream video games and the where they're thought and brought to you are not made to make you think about your reality as it is and make you want to really challenge it or change it or think how the real future could be. Science fiction does that. Science fiction brings you...
Or it can do that.
Yeah,
can, it's capable of doing
yeah,
that.
It's capable of doing that, bringing you hypotheses about the future. Today, futuristic video games are...
Space Marines.
Yeah. For instance, they're not... Well, we have had recent examples like Deus Ex, Human Revolution, who are trying to make you think about things, but mostly futuristic video games just want to put you in a post-apocalyptic state and make you shoot at things and kill things and, you know, everything's gone to hell and you don't question it. David and Heather think game design and video games can make you, the players, challenge reality and think about the real future we want to bring on. But to do that, we, people who make video games, have to reach maturity. And to reach maturity, we need to be able to speak about any topics in video games. And for now, video games aren't capable of doing this. And for
well,
example,
they're not willing to. I think maybe they could be capable if people tried, but it seems the willingness is not there. Or
I don't know if it's anyway. For example, today video games can't talk about sex. If we are approaching the sex issue in video games, we are talking about Lara Croft getting raped. We are in the porn image of sex. We are not able to have a casual sex scene in video games. That happens in books all the time. People make love. People have sex.
And films and everything else. Yeah.
And it doesn't happen in video games. So why?
So how
do we reach it? How do we get to talk about mature topics in video games?
Comment on peut avoir du cul dans les jeux qui soient pas débiles?
Voilà. Sex is just an example, but it's
non,
a good one.
Non mais c'est super important ce qu'on dit là. C'est, je suis désolé
because
s'il
games
y a
are
des
very
enfants
good at war and very
ou quoi que
good
ce soit.
At,
yeah. Mais non mais excuse, sorry Ever, I'm just kicking the thing and then I'm letting you.
Go for okay. it.
On va prendre le sexe là parce qu'on va y arriver. De toute façon, c'est là-dessus qu'on va parler de tout à l'heure parce que c'est finalement le degré d'engagement qu'on a pour challenger notre idée de la réalité. D'accord ? Et vous allez voir où on vous emmène après ça. Mais ce qui est fondamental à comprendre, à mon avis, là, c'est que dans toute relation sexuelle que vous pouviez avoir dans votre vie, que ce soit avec quelqu'un que vous aimez, que ce soit pour n'importe quoi, c'est qu'il y a une notion qui n'est pas induite par le jeu vidéo qui est la notion d'ambiguïté, qui est la notion de paradoxe. D'accord ? La réalité supporte le paradoxe. La réalité supporte l'ambiguïté, supporte la résolution des choses qui sont pas normalement compatibles. Et c'est là-dessus que se fait l'excitation. C'est là-dessus que se fait l'interdit, que se crée le tabou. D'accord ? Comment le jeu vidéo peut faire ça, finalement ? Comment est-ce qu'on peut approcher cette notion d'ambiguïté, c'est-à-dire d'intervalle, tout en sachant que le jeu vidéo, à la base, c'est du 0 et du 1. C'est-à-dire, c'est soit... c'est soit... Non, mais je vais être gros bille là. Non, je peux pas. C'est soit ça, soit ça. Imaginez. Voilà, donc comment ça peut être ça et ça? Voilà, et je pense que le travail d'Ever Works as is one of the first work that actually approaches this ambiguity frontally. and acknowledge this ambiguity in order to provide an experience of sex that is something else. So maybe you will want to talk about
your work. You're talking of Lapis, I guess.
Yes, please.
Not the other one. Not the other sex up project.
Please, tell us
right.
about
it. Okay, so I'll describe briefly the project Lapis. It's a game design concept for, and originally it was designed, because it's quite a few years ago, for the Nintendo DS. So a touchscreen and plus a non-interactive screen. And the idea for this game is that on the touchscreen you have a small, very cute creature. It looks maybe in the example like a cute bunny rabbit, but it has a very suggestive shape to it. And the idea for the game is that you are interacting with this small rabbit. Maybe you're stroking it, or you're tickling it, or you're, I don't know, singing to it, or humming, or any number of possible interactions. And if you are successful in interacting with this cute animal in a way that it likes, it will fly through the air, through a fantasy world, and eventually arrive at its happy place. So, not terribly hidden metaphor or analogy to female orgasm and masturbation or female stimulation and orgasm. And so that's the basic idea, but it also was not really very graphically explicit. It wasn't a pornographic game at all. It was really taking the interactive component of sexuality, but not necessarily the literal visual. So it was very, it was a metaphor. But also the idea behind it was that it would be as realistic as possible, in that there was no only one way to solve the game to win. And it wasn't even the same way to win from time to time, and just other aspects of that would have a very affecting sexual feeling about it, but without in any way being pornographic or requiring a high rating or anything like that. So this game was essentially pure concept. It did eventually get developed into an installation game that was played in you would call it a museum environment, but it was more a dome projection, half dome projection environment. And the graphics are very colorful and playful. And in fact, the sort of imaginary places that you're flying through to reach your happy place were all based on interviews I had with women about different visuals or things that they saw when they were getting off. And it was very unexpected, cupcakes, auto parts. There's a wide variety.
And so what was the feedback?
Cupcakes.
What was the feedback from the players?
Well, it was fun watching either guys play it or girls play it, and because I wouldn't tell them much in advance what it was supposed to be about, but...
Did they realize?
I think at a certain point, yeah, they kind of realized, they would start to giggle, yeah.
Okay, but I really have a question is, why did you feel the need to be so metaphorical? Why... Once again, can't we, as game designers, games developers, access the reality of a sexual relationship?
It could be, but honestly, if I felt that the metaphorical way, because really what's metaphorical is more the graphics. All the interaction is a lot more literal, and something that has a cuter graphics is approachable to a wider variety of people is what it comes down to. Like, I didn't want it to be a game that was only for people that could access a very graphic game. or that we're interested in a very graphic game. And so I felt that having this approachable representation would reach people, especially women, that may not be comfortable with a graphic representation of their bits, but that needed to have this information, and in a way that would be possibly even a learning tool, but one that wasn't just literally in their face about what it was. Like,
yeah. Okay, so did you design it as a behavior change for masturbation game?
Essentially, yes. Although, I mean, that version never was created. It was really a concept. The one that was in this dome environment would never have reached any more people than could go to this physical place where this special dome was. So that was more just testing and playing with the idea as a fun thing. But the idea for the Nintendo DS was when that platform was at the height of its popularity. Everybody had one, especially a lot of women, and that game could potentially reach people that might not otherwise have access to that kind of thing. Especially, I mean, I'm from America, so you know, I have no, I don't deny that it's like a little more repressed. So, yeah.
David, what's your take on this?
Moi, sur 8. Ok. Alors, je vais parler en français. C'est pas grave. James Joyce, qui est un garçon que j'aime beaucoup. C'est prétentieux. Non, il a dit un truc superbe. Il a dit à un moment donné, ce que j'aimerais, c'est pouvoir finalement, si je devais créer une spiritualité, ça serait de savoir qu'est-ce que ça fait d'être une femme. D'accord ? De savoir ce que ça fait de ressentir le monde en étant une femme. C'est vrai que c'est pour nous, c'est complètement fou cette histoire. Parce que nous, on est en train de là, on est là, on est des petits geeks de SF, on se dit, oh, ce serait génial d'être un robot. Ouais, enfin bon, ce serait quand même génial d'être une femme, quoi. Non, enfin, je sais pas, pour tous les mecs qui sont là, quoi. Je suis désolé, une majorité de mecs, enfin, être une femme, c'est délire. C'est un truc de fou. Enfin, vous vous rendez pas compte de ce que ça fait, ça pourrait faire à votre esprit d'être une femme, quoi. Et donc, moi, je suis parti de ce principe-là et je me suis dit, mais bon, peut-être que finalement, si on arrivait à des jeux qui nous permettent de vraiment restituer l'intimité d'une pensée comme ça, métaphorique ou pas, on pourrait peut-être excéder nos limites et accepter la différence et accepter le point de vue différent, parce que finalement le grand gouffre qu'il y a dans notre monde, c'est pas un grand gouffre entre les robots et les humains, c'est entre les humains eux-mêmes, d'accord ? C'est entre nous. C'est entre le public et nous, et entre un homme et une femme, quoi. C'est ce gouffre-là qu'il faut travailler, c'est ce gouffre-là. C'est ça qui nous rend humains, finalement. Et que finalement, l'expérience d'un jeu comme celui d'Ever pourrait nous donner... Enfin, moi, j'ai envie de pouvoir ressentir à un moment donné ce que ça fait d'avoir un orgasme féminin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très sérieux ce que je vous dis, c'est pas du tout un truc complètement fou, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous arrive, d'accord ? Et si le jeu... Il est capable de nous donner ça, parce que Joyce a essayé de nous le donner, mais c'est super dur. Joyce, il nous a fait 150 pages de monologue de Molly Bloom sans ponctuation pour le faire, quoi. Bonjour l'angoisse, quoi. Un jeu sur DS, c'est quoi ? C'est rien. Donc en fait, moi ce qui m'a intéressé à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à comprendre ce pouvoir des jeux, quand j'ai commencé à comprendre ce pouvoir de la simulation et de la stimulation contextuelle... Merci. Je me suis dit que les jeux finalement pouvaient commencer à me changer moi et ils pouvaient commencer à changer mon point de vue sur la réalité et mon point de vue d'homme. Voilà, et on vit dans une société hétérocentrée, cisgendered, et à partir de ce point là je me suis dit peut-être que si le jeu vidéo est capable d'apprendre la violence, alors il est capable d'apprendre la douceur, il est capable d'apprendre l'ambiguïté, il est capable d'apprendre le désir de l'autre. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un truc incroyable. Et qu'on ne pourra jamais faire avec un livre. Parce que dans un livre, il y aura toujours un personnage qui le fera à votre place. Même si vous vous identifiez à mort avec ce personnage. Même si ce personnage, il a des trucs que vous avez vécu. Ça sera toujours quelque chose à distance de vous. Ça sera quelque chose que vous pourrez expérimenter de face. Oui. Et ça, c'est... Enfin... Je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut changer le monde. Alors, non. Excusez-moi. Pas qui peut changer le monde, qui peut changer la manière dont on voit le monde. Et en tant qu'auteur de SF, moi j'ai jamais mis de SF dans mes livres, hein, j'ai jamais compris pourquoi on disait que je faisais des bouquins de SF. J'ai dû mettre un vaisseau une fois et encore, c'est un tas de merde. Disons les auteurs de l'imaginaire, Notre travail, c'est de donner l'impossible. Et qu'à un moment donné, on n'a plus les outils pour. C'est pas possible. Enfin, j'ai pas les outils pour. Peut-être que vous les avez, peut-être qu'il y a des gens extrêmement brillants, beaucoup plus brillants que moi, qui les ont. Moi, je les ai pas. Donc, à un moment donné, je pense que notre société, qui est une société d'image, qui est une société d'information, qui a du mal à s'intégrer à des narrations très structurées comme ça, va avoir besoin de mondes dans lesquels expérimenter des points de vue différents pour pouvoir changer le point de vue sur le réel. Ces points de vue ne peuvent changer que s'ils sont exercés dans des réels recréés, incréés, puisqu'ils ne sont pas le réel. Voilà. Et c'est ça, en fait, le pouvoir du game design aujourd'hui. C'est qu'en fait, le game design, il vous change vous. Et ça, c'est une bêtise que je vous dis. Je veux dire, n'importe qui va vous dire ça, n'importe quel chimiste ou gourou de base, va dire connais-toi toi-même, machin. Non, mais en fait, c'est vrai. C'est juste si la manière dont nous, on pense le réel, elle devient différente, et ben on pourra accepter tout ce que la science-fiction nous donne aujourd'hui, de transhumain, de machin. Enfin, je veux dire, mais je suis désolé, mais comment est-ce qu'on peut être transhumain si on n'est pas humain? D'accord? Moi, je suis pas humain. Enfin, je veux dire, je serai humain quand je comprendrai l'autre, quoi. Je peux pas comprendre l'autre. Donnez-moi les outils pour comprendre l'autre, et là, on pourra parler de transhumanisme. Là, on pourra parler de singularité, le moment où on sera remplacé par des robots et des machins et tout. Mais moi, j'ai pas envie d'être remplacé par un robot si je suis pas remplacé par moi-même. Vous comprenez? Voilà.
I would really love to know, David, but that's also a question for Heather. I think we've understood you and Heather all want to be able to change people through games, or to give them the keys to change, and then changing other peoples around them, and then changing the world. How can games do that and achieve that when so many things in games are taboo? And how can a game designer, David just said, how can I be transhuman if I'm not even human? So I suppose you as a game designer want to help people understand what it is to be human with all the complexity it has. How do you intend to do that?
I've been thinking about this a lot lately, actually, because there's a area of games called games for change, so games that are about social issues and games that are trying to teach or expose certain realities about our culture, about the world, maybe about science. And In general, this field has a kind of bad reputation because often it's so didactic that the games are not engaging, and that's not across the board true, but it's kind of this reputation that it has. But I've been thinking a lot about the kind of games I'm interested in that are more artistic and more personal, and I think what games need to do moving forward that something, a field like science fiction already does, is have a more individual voice, a perspective, that a certain person sees this possibility and shares it with other people through the medium of the game, which means the medium of allowing people to interact directly with their vision, rather than considering that this games for change are about some idea that is developed by a committee and is, you know, morally obviously the right thing, and it is just far too institutional, I think, and usually the not really coming from any particular perspective. I really think that games need to have that voice, and even though you have to learn to accept that you're playing one person or a very small group of people's opinion, and you know that, but that it's still powerful because you can see this vision that they have for this alternate reality. And games have been kind of bad at doing that, and I think that's why you end up seeing the more blockbuster version, the hero narrative, the kind of least common denominator version of a future of science fiction. And that is to their detriment. And so I feel that the way forward will be visions of alternate realities coming from smaller groups, individual voices, more unique visions, rather than from trying to appease a sort of mass audience and what that ends up bringing. So that's my feeling about how that can change, should change.
Isn't the main problem for that, that the big difference between a book and a game is a book is a single author writing about his vision, and a game is wide team of people putting together a vision, and so there is no, I don't think there's a big notion of authorship in video games.
Well, I think there should be, and those big teams are often the case, but aren't always the case, and in fact it's becoming more and more possible that smaller teams are able to accomplish something very world-changing or genre-changing, let's say, at least, you know, medium-changing. So I don't think it's inevitable that the best work is only coming from these large companies, and then that would take a separate conversation about distribution and promotion and all that sort of very practical stuff about how games reach people. But the games are already out there that have this more unique vision. It's really just that I think that has to be a growing part of the field of the that part of the culture where the blockbusters, which are not actually financially always successful. It's not like that is like the obvious model to making a game, that they're becoming less and less part of the ecosystem. So I think it's already on the way there, but my interest would be in pushing that even farther and having even more extreme personal visions that are demonstrated through games.
Tout le monde a compris, c'est bon? Cool. Alors, moi je vais étendre un peu ce que dit Ever. Et ok, je vais revenir un peu à l'Antiquité. Homère et Sappho. Alors, Homère vous fait une histoire de guerre massive, de héros, de dieux, de machin. Ils se charclent tous, puis ils sont tous énormes, et puis. Bon, c'est génial. Et Sappho, qu'est-ce qu'elle fait? Sappho, elle prend cette matière-là, et elle extrait cette matière-là, et elle dit, non mais attends, mais moi, mon voisin, il a perdu son fils à la guerre de Troie, quoi. Et moi, je vais écrire sur mon voisin, je vais écrire sur comment je partage la douleur de mon voisin qui a perdu son fils à la guerre de Troie. Voilà. Et là, ça, c'est un parallèle exact sur ce qui se passe en ce moment dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a je vais essayer d'être clair. On a des mondes qui sont créés par des développeurs inconnus, donc qui ne revendiquent pas leur notion d'auteur, c'est-à-dire qui ne revendiquent pas le point de vue unique sur un monde, qui disent c'est notre monde, il est par défaut, on va dire, mais qu'à l'intérieur de ce monde-là existent des expériences uniques, singulières, qui sont vécues par le joueur, qui sont restituées par le joueur. Donc finalement, ce que dit Ever, c'est extrêmement fort, c'est d'une puissance incroyable, c'est-à-dire qu'on va remplacer la notion d'auteur par la notion d'intimité de l'auteur. Et alors, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas évident à capter comme ça, parce que c'est des choses qui sont du domaine de l'imperceptible, qui sont du domaine de la du moment où on va arrêter de penser le monde tel qu'on le pense aujourd'hui, où on va penser le monde à travers nous et pas en dehors de nous. On va penser le monde à travers l'homme. Voilà. Et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et c'est très beau ce qu'elle dit sur les auteurs, finalement. Enfin, moi, récemment, j'ai été confronté à ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai été confronté à l'idée, voilà, je fais un jeu pour une maison d'édition. Et je fais tout, j'écris, je dessine, je fais plein de trucs dedans, quoi, et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai fait la splash page et j'ai mis mon nom dessus. Comme on mettrait un nom sur un album de BD ou sur un livre, etc. J'ai pas tenu 3 jours avec ce truc-là, quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas mettre mon nom dessus, quoi. Même si c'est moi qui ai tout fait, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Parce que si je fais ça, je nie complètement la personne qui va le prendre et l'utiliser et le prendre pour soi. Et c'est ça qui fait le jeu vidéo, qui fait la culture du jeu vidéo. C'est l'appropriation. Le geek, c'est ça, c'est celui qui fait pipi sur quelque chose dans le premier. Non, le geek, c'est oh, j'ai vu, oh, t'as pas vu ça, non, c'est génial, moi je l'ai vu avant toi. C'est ça le geek. Il est là avant toi. D'accord? Donc le jeu vidéo, il est là avant toi, il a gagné avant toi, il a fait le plus haut score avant toi, il s'est approprié avant toi. Donc c'est comment on donne ce truc, comment on le donne aux gens, quoi. Et c'est une. c'est une énergie incroyable que de, et surtout pour un auteur, que de prendre un truc, de le jeter et de dire vas-y, prends le bouffe-le, quoi. C'est à toi, c'est ce que tu veux avec, quoi. Et ça, c'est ce que Sappho faisait très bien. Et moi, j'aime énormément Sappho. Je trouve que c'est une nana extraordinaire qui a dit des choses extraordinaires sur l'intimité, sur la sexualité aussi, beaucoup des Grecs à cette époque-là, quoi. Et voilà, on en est là. C'est-à-dire, on est à ce point-là, et avec des gens comme Ever, justement, on est au point où est-ce que le jeu, finalement, devient l'Iliade ? Est-ce que le jeu vidéo, c'est l'Iliade ? Ou est-ce que le jeu vidéo, c'est qui on a perdu à la guerre de Troie, quoi ? Et on en est là, donc là on est en ce moment entre les deux. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on attend de voir. Il y a encore des designers qui poussent leur nom parce qu'il y a une espèce de volonté de dire le jeu vidéo c'est de l'art, donc forcément j'ai un truc à défendre. Et puis il y en a d'autres qui disent ouais, moi j'ai compris. Et ben on ne sait pas encore, c'est quantique. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, je pense.
Ok. I think we lost David a bit there. well, Heather and I lost you.
Anyway. Oh, okay, sorry.
we're running short of time, and before taking Q&A, I think Heather wanted to talk about something very specific, so yeah. I'll let her.
Yeah, I just missed one thing. I should have mentioned it. As far as the discussion of sexuality in games goes, September this year. There's a conference every year in San Francisco called Ars Electronica. It's different than Ars Electronica, which is the one in Linz, digital art one. Ars Electronica is about sex and technology, and that's been going on 4 or 5 years now. And I wanted to just share that with you in case you're interested to check it out. I bring it up because I was curating it this year because the subject was actually about sex and games. So there was a lot of discussion about how to take that forward past the point where it currently is. And really interesting stuff on Nordic LARPs, because we should be really clear when we talk about game design, we're not only talking about video games. This also applies to games in other formats, games, social games, public games, tabletop games. It's not an exclusive thing, game design to video games, of course. Probably you guys already know that. But I just wanted to share it with you because in addition to recently being about games and sex and tech, in the past it's had other sub-thematics, and I just want to show you this book, if you're interested, is about sex and technology and science fiction. It's called Do Androids Sleep with Electric Sheep? And the group that puts this out is called Monochrome. They're an art group based in Vienna, which is also where I'm from. Total coincidence, I assure you. And this is published by Research. You may already know of them, too, out of San Francisco. Critical perspectives on sexuality and pornography in science and social fiction. So super interesting if this is something that you are also interested in progressing. And yeah.
Just to finish on what you said, why are we stressing the sexuality thing is that when you are looking at technology, technology is used for either war or sexuality. And if you want to change your life that you're living, you have to pay attention to what is going on in war and in sexuality. So we choose sexuality because war is bad.
Yes, obviously. And obviously games have no problem with talking about war and violence and killing and things like that. And they do have a problem with
Le truc, c'est que la guerre, c'est... comme je vous l'ai dit, comme l'ambiguïté n'a pas lieu d'être dans les jeux, on travaille sur des émotions primaires. Donc on travaille sur la guerre, on travaille sur la peur, on travaille sur la mort, on travaille sur ces choses-là. Mais c'est fini tout ça. On est passé à autre chose, on est au 21e siècle maintenant.
Ok. Est-ce que vous avez des questions, soit pour Heather, soit pour David, soit pour les deux ?
Is there a mic somewhere? Est-ce qu'il y a un micro ?
Non.
Ok. Pas de questions?
We can wait.
Ah si, on a une question au premier rang.
J'en ai une au fond.
Ah, il y en a une autre au fond. Formidable. On voit pas bien au fond.
Bonsoir. Moi j'ai une question, alors pour vous deux d'ailleurs. J'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit tous les deux. En fait, vous nous avez dit en gros que à l'heure actuelle, c'est pas, enfin moi c'est ce que j'ai compris, on n'arrive pas à faire un jeu vidéo qui permette aux joueurs d'avoir une expérience une autre expérience du réel complète au final, quoi. Enfin c'est ça que j'ai compris, quoi. Et je me demande en fait qu'est-ce qui limite les game designers dans la création d'un univers qui permette aux joueurs de vivre une autre expérience du réel, quoi.
Ah, c'est une super question ça. Super, on a une heure. non, c'est génial. Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est que tu parles de complète, mais en fait, il faut parler de subtil. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on travaille avec des outils technologiques, c'est-à-dire qu'on travaille avec des outils qui sont soit justes, soit pas, soit faux. Et le problème, c'est comment avoir un résultat qui est à la fois juste, à la fois faux. Et c'est tout bête. Et on n'y arrive pas. C'est pas possible. Alors, je voudrais bien essayer d'exprimer ça de notre manière, mais il faudrait que tu mettes les mains dans un éditeur de jeu concret pour voir à quel point c'est difficile, à moins d'être un master du code et de réussir à travailler sur l'architecture d'un code, etc. Mais il y a très peu de gens qui arrivent à faire ça. Il est très très dur pour des game designers, donc des gens qui travaillent avec des outils faits par des codeurs, parce que c'est ça l'essentiel du travail d'un game designer, travailler des outils. Il va travailler avec un éditeur de dialogue, par exemple, il va travailler avec un éditeur de gameplay, c'est-à-dire d'interaction, c'est-à-dire qu'entre cette bouteille et ce verre, il peut y avoir globalement soit la bouteille elle parle, soit le verre il parle, soit la bouteille elle tape le verre, le contraire. Globalement c'est ça. Donc le mec il va faire ça, il va coder ça, il va dire bah voilà, débrouille-toi pour exprimer du sens avec ça. Super, c'est génial quoi, donc c'est super chaud quoi. La plupart des game designers aujourd'hui ne sont pas des codeurs. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de respect pour les codeurs, parce que c'est des gens qui travaillent avec la nature même de ce qu'il est possible de faire. Donc, ce que j'ai envie de te dire, ce n'est pas une question de complet, c'est une question de subtil. Il existe une dichotomie intéressante aujourd'hui que la SF a travaillé un tout petit peu, mais pas beaucoup, qui est la différence entre le discret et le continu. La réalité qu'on expérience, qu'on vit tous les jours, elle est continue. C'est-à-dire que voilà, les choses, la réalité dans le digital, elle est discrète. C'est-à-dire qu'elle se travaille par petits bouts et elle peut se reconfigurer comme on veut. Voilà. Et c'est cette capacité de reconfiguration qui nous échappe en fait considérablement. C'est-à-dire que pour l'instant, on a ces blocs, on les a identifiés, mais on est incapable de les assembler pour faire du sens. On ne peut les assembler que pour faire des sens pré-mâché, prédéfini de ce qu'on fait, c'est-à-dire tue quelqu'un ou parle à quelqu'un, voilà. Et donc, et c'est là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut réussir à établir un dialogue en fait entre les codeurs et les designers aujourd'hui, et qui est très difficile à faire parce qu'ils vivent dans deux réalités différentes, que la plupart des codeurs essaient d'être designers, et que les designers sont des codeurs frustrés.
David, je crois que Heather n'est pas du tout d'accord avec ce que
tu dis. Ah ouais, cool, super, vas-y.
Yeah, my answer would be that it is possible. It's simply that it's harder to find out about, to hear about, because the ability to make something on a very large scale, of course, is requiring a lot of risk on the part of the companies that have the ability to make something big. So the things you hear about are mainly the ones that are appeasing what they believe to be their core audience. You'll hear a lot of disagreement, though, about whether it truly is really the largest audience, but it's the way they operate, the basis on which they make decisions about what would be good content or not. It's changing, but I think it's the things that change it are the fact that we have different methods of getting games to people, and also the different scope of games is becoming acceptable. Not every game has to be 60 hours long now, and that you can have something that's more personal because it's smaller and requires a very much smaller team or... wow, okay, that's getting really loud. I'll just finish up. So it's possible, it's just that you may not hear about them as much, and they aren't getting promoted as heavily because the people that make them are then responsible for getting the word out about them, and there hasn't been the equivalent, I mean, there's publishers in games, but publishers and games are not the same as what publishers do in books. There's not a lot of artist development, I guess. So there's maybe something you'd want to check out is a game that came out recently called Papo y Yo by a developer called Minority, but they're headed up by a guy, Vander Caballero. And it's an adventure game where you are a young boy in the favelas and you have to interact with your friend who's a giant monster. And he's friendly, but then he's also addicted to poisonous frogs. And the idea behind the game is it's actually a very personal metaphor of the life story of the creator, his name is Vander Caballero, whose father was alcoholic, and the whole dynamic, the family dynamic, he wove that into the gameplay of the characters. So it's not just you see a cutscene or you have a dialogue. It's really everything you do as an action in the game is relevant to this family dynamic that he is exploring. And it's a very personal game, even though it's about an imaginary young boy and a monster and a robot. So that's maybe one example, and I think the fact that we can't really have this full range of subtlety is definitely limiting in a certain way, but it isn't completely obliterating the possibility of having personal expression by any means. So.
Okay, so I was going to ask if you had one game to recommend, so that's Papo and
Yo. There you go.
David, would you have one game to recommend to our audience?
Proteus.
Proteus. Proteus.
Proteus. Vous cherchez Proteus Game, vous jouez à Proteus et vous allez comprendre.
Yeah. Ok. Je crois qu'on a vraiment plus de temps. C'est dommage. Je voulais juste vous dire qu'actuellement, il se passe un truc auquel vous ne seriez pas au courant. Il y a une Game Jam qui a lieu, qui est organisée donc, en parallèle de ces utopiales. Elle a lieu à la cantine numérique. C'est à 5 minutes d'ici. Il y a donc 6 équipes qui travaillent sur la création de jeux. Ils ont commencé il y a 24 heures et ils termineront un peu moins de 24 heures maintenant. On leur a donné un thème, ils sont arrivés, ils ont créé des équipes. Il y a des codeurs, il y a des graphistes, il y a des game designers et c'est vraiment un exercice imposé. Il y a des choses très intéressantes qui sont en train d'être faites. C'est open si vous voulez passer les voir pour regarder comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo. Bêtement, hein, c'est quoi le processus et c'est quoi les métiers et comment ça fonctionne en vrai. Et puis surtout, on vous invite à être là demain à la remise des prix, puisque un des 6 projets qui sont actuellement en train d'être développés, donc à la fin de ces 48 heures de dev, ça va tourner, il va y avoir un vrai jeu vidéo qui va tourner. Alors il sera pas, il y aura pas 60 heures de jeu, hein, mais en tout cas ça sera présentable, jouable, et donc il y aura un de ces 6 projets qui sera élu gagnant. Donc soyez là à la remise des prix, mais surtout n'hésitez pas à passer à la cantine numérique pour regarder si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo, c'est le moment. Et merci d'avoir été là.
Merci.